accueillir François Barranger, Laurent Genefort et Arnaud Duval. Sachant que Laurent Suner est en Suisse, elle n'a pas pu venir aussi. Pas de train avec la Suisse.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis livré à domicile en plus, c'est super.
Je ne sais pas si je peux renvoyer mal, donc tu seras là. Tu seras là. Tu seras pas là.
Et un problème on va arranger quand même.
Si, si. Donc ce tas, j'avais un truc à faire. Dédicacé,
il y a lien, je le fais.
Je sais pas, je vais voir s'il y a du monde ou pas. Parce qu'il faut que je retourne. Bon, je ne sais que c'est dingue.
On a découvert le style.
Tu l'as payé au livre. Ah donc tu l'as payé au livre. D'accord. Il y aura sans doute les autres qui sont là à ma bombe.
Ah oui, bon, super. Déjà que j'arrive à te.
Non, mais.
Je vais t'attraper comme ça. Tu vois, André.
Voilà. La place du chef.
La place du chef.
Viens, toi.
Il y a de grandes chances que.
On ne sait pas trop, parce qu'en fait, les autres
cartes ne sont pas exactement. Oui, sans doute. On s'est dit bonjour, il y a un capitaine.
Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'auteur.
C'est la bonne philosophie.
Et là, il y a un capitaine. On s'est battu.
Voilà,
voilà. Alors, donc nous avons une heure devant nous. Donc le thème aujourd'hui, c'est le space opéra aujourd'hui. Quelle place dans la littérature française de science-fiction ?
C'est bien.
Donc un vaste thème. Donc on va pas, déjà, ils vont se présenter. Donc nous accueillons le prix Futurial de la jeunesse 2012, donc Arnaud Duval, qu'on a eu la joie de voir passer en folio très récemment. Avec un joli bandeau bleu, donc c'est notre fierté à nous, parce que du coup, tous les libraires de France ont vu qu'il y avait un prix Futurial. Donc je suis assez content. Bon, là, c'est mon égo qui parle. Nous avons notre ami François Barranger pour Dominium Mundi, qui a été finaliste du prix Révélation de cette année, avec son collègue de Antoine. Et puis, donc Laurent Suner n'est pas là, et nous avons donc évidemment Laurent Genefort, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus.
Comme les autres, quoi.
Voilà. Donc, auteur de dizaines de romans, évidemment. Donc, déjà, je sais pas, oui, présentez-vous rapidement. Que faites-vous, d'où venez-vous, où allez-vous?
Bon, ben, bonjour. Donc, Arnaud Duval. Donc, bon, moi, je suis un tout petit nouveau dans le. Un petit jeune dans la. Dans le domaine de la science-fiction, et donc mon premier roman, Les Pousse-Pierre, est un roman de space opéra, alors plutôt solar system opéra, qui se passe dans le futur, et qui est reconnu donc, par les futuriens, mais qui est dans cette tradition-là d'avoir de l'espace, des vaisseaux spatiaux, des aventures.
Eh bien, moi, je m'appelle François Barranger, je suis illustrateur à l'origine, et j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Dominium Mundi, qui est en deux tomes, donc le deuxième vient de paraître récemment, et qui raconte en très très résumé, qui décrit un monde dans un futur moyennement lointain, revenu à un mode de vie médiéval après un cataclysme apocalyptique et tout ravagé, et qui découvre, en essayant de conquérir les planètes les plus proches pour trouver de nouveaux territoires à l'humanité, qui découvre une civilisation extraterrestre, et au cœur d'une des villes de cette civilisation extraterrestre, qui découvre le tombeau du Christ. Et comme c'est un monde que j'écris qui est revenu à un mode de vie médiéval, forcément il est dominé par la religion, et qui a un corollaire classique de la féodalité, et le pape qui est le pape de cette époque-là, qui est le chef de l'Empire chrétien moderne, décrète une nouvelle croisade pour aller conquérir ce qu'on pensait être le tombeau du Christ. Donc le roman raconte le voyage vers cette planète inconnue et ce qui se déroule sur place, les aventures des personnages qui cherchent à en savoir davantage, certains qui adhèrent complètement à la doctrine officielle et d'autres qui enquêtent pour voir si vraiment il n'y aura pas quelque chose derrière tout ça. Voilà.
Et bonjour, je suis Laurent Jeunefort, je suis auteur de quelques dizaines de romans, effectivement, et principalement du space opéra d'ailleurs. J'écris peu dans d'autres genres, voilà, qui est dans un univers global que je dépeins depuis un peu plus de 20 ans maintenant, voilà. Qui s'appelle la Pan-structure, pour ceux qui veulent savoir.
Tu as parlé du dernier, Frédéric Tom Domain.
Ah, alors le dernier, les vaisseaux d'Omal, donc c'est le dernier volume paru, inédit, donc c'est le quatrième volume d'un cycle qui s'appelle Omal, qui se passe à l'intérieur d'un artefact très très grand, qui est une sphère de Dyson, c'est une coquille autour d'un soleil, d'une étoile, et donc c'est ce cycle, c'est l'histoire de l'humanité et de deux autres espèces qui partagent la même zone atmosphérisée, à l'intérieur de cette immense coquille. Et voilà, donc c'est leur histoire sur à peu près 2000 ans, et donc je prends des périodes charnières dans cette histoire qui forment chacun un roman, et puis des nouvelles aussi, qui me permettent d'approfondir un ou deux aspects de la vie de ces espèces différentes. Voilà, donc là, le dernier, c'est ça m'a permis de développer une des trois espèces, qui s'appelle les Hodkin, puisqu'il y a les humains, les chives et les Hodkin. Donc là, je me suis intéressé à la troisième espèce que j'avais justement laissée de côté pour pouvoir en parler et le développer à loisir dans ce roman.
Ouais. Je vous conseille tous de le roman, c'est super. Donc on va essayer de définir ce que c'est que déjà le space opéra pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi j'avais trouvé une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Ouvrez les guillemets. L'espace marié à l'épopée et à l'émerveillement au sens of wonder. Donc vous, comment vous définiriez le space opéra, le planète opéra, qui est un sous-genre voilà. Qui tu veux penser?
Et donc les définitions en science-fiction, c'est toujours un petit peu casse-gueule, on peut trouver toutes les exceptions possibles. Mais en gros, le space opéra, déjà, il y a le mot space, ça aide un petit peu. Donc quelque part, on n'est pas dans une pièce fermée, on ne va pas être dans un pays. Éventuellement, ça peut être toute une planète si ce n'est pas la Terre. Mais c'est vrai qu'on va au moins sortir de l'atmosphère terrestre. À partir de là, je pense qu'on est dans le domaine. Sinon, je pense que c'est aussi un genre... la manière dont il a évolué dans le temps depuis les débuts de la SF, ça a été assez varié. Et c'est probablement, à mon avis, assez intéressant de le regarder de cette manière-là. Pas comme un genre un petit peu figé, mais quelque chose, une manière de voir comment on regarde au-delà de notre monde à nous et qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Donc, par exemple, la manière dont, à un moment donné, le public, les attentes vont regarder les grands enjeux technologiques, l'optimisme, la notion de progrès, par exemple, ou des choses comme ça, ça peut influencer sur le genre de récits de space opéra qui vont effectivement apparaître ou pas. Un exemple de ça, par exemple, c'était Dune, et avec l'apparition de l'écologie. Donc quelque part, on a, c'est pas que l'espace, mais c'est l'espace sous un certain point de vue. Dans Dominion Mundi, le côté de la religion, bon, il y a quelque chose en ce moment qui occupe l'actualité, typiquement ça résonne avec ça. Donc pour moi, déjà on regarde à l'extérieur, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'au bout de l'univers, on peut rester dans une petite zone. Mais on regarde plus l'extérieur que l'intérieur. Il y a des SF qui sont plus intimistes ou des SF qui abordent des points de vue. Par exemple, si on veut le comparer à quelque chose comme la post-apocalypse, c'est à peu près l'inverse. Post-apocalypse, on arrête tout, on est sur une fin du monde, on essaie de survivre dans les ruines d'un monde qui est perdu. Space opéra, on va au contraire découvrir un nouveau monde. ça peut être noir ou pessimiste ou optimiste. C'était très optimiste au tout début. Maintenant, on va forcément pas faire que des histoires qui se finissent bien, mais c'est un peu l'idée.
Moi, je suis toujours un peu embêté avec les étiquettes, même si c'est commode dans la conversation pour savoir de quoi on parle, mais le space opéra, en plus, c'est comme souvent ce genre d'expression, c'est à l'origine, c'est un peu péjoratif, c'est un peu narquois, on va dire, gentiment narquois. Et donc, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'on est dans le domaine du contexte. C'est-à-dire, si on a envie, si on aime ce genre d'ambiance, on est tout ça, les vaisseaux, l'espace, les civilisations inconnues, les planètes inconnues. Donc on est naturellement attiré, on a envie d'écrire du space opera. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un les grands romans d'aventure maritime du XVIIIe siècle, L'île au trésor, ou les romans de Conrad, ou Le dernier Mohican. Alors, L'île au trésor, ça pourrait être du space opera. Dernier Mohican, ça pourrait être du planète opera. Il suffit de changer, c'est comme en musique, il suffit de changer les arrangements.
Perspective.
Voilà, et on garde la mélodie, on garde l'histoire, le cœur de l'histoire, et c'est les arrangements. Et alors, c'est pas, évidemment, c'est pas du tout réducteur ce que je dis, c'est les arrangements, c'est fondamental. C'est aussi important que l'histoire, il faut les deux en fait. Mais moi j'ai du mal à définir ce que c'est exactement le space opera, hormis le fait qu'on a bien compris que ça se passait quand même en partie dans l'espace. Mais j'ai l'impression qu'on peut. Il y a beaucoup de choses dont on dit aujourd'hui que ce sont des grands classiques de la littérature, etc., qui, s'ils avaient été écrits aujourd'hui, pourraient être du space opera, ou en tout cas de la science-fiction. On prend par exemple, c'est vraiment un exemple extrême volontairement, et, Le paradis perdu de Milton, qui est donc un poème épique en vers du XVe siècle, qui raconte la chute de l'ange qui devient Satan, la chute de Satan, qui est rejeté en dehors du paradis par Dieu parce qu'il ne voulait pas se conformer, il ne voulait pas faire exactement ce que disait Dieu. Puis la création, la genèse, la création du jardin d'Éden et comment Satan a réussi à convaincre Adam de croquer dans la fameuse pomme. Cette histoire qui est racontée par Milton à l'époque, qui est une espèce d'ode à Dieu, parce qu'il était très croyant, quand on la lit, c'est un roman d'aventure. Et moi j'ai l'impression. Ah,
faites pas attention. Ah,
nous avons l'extraterrestre parmi nous.
C'est ta sonnette ?
Non.
Non, c'est la
mienne. Ah,
c'est la mienne.
Ah,
oui. Mon téléphone était
éteint. Ignorer ça. Ça
c'est pas par la sonnerie de téléphone.
Ignorer la.
La bande-son, pardon.
Oui, ça marche bien.
Laurent sait tout faire.
Et donc, oui, s'il l'écrivait aujourd'hui, bah. Finalement, le combat entre les légions célestes et les légions infernales, là, ça pourrait être Starship Troopers. Là, ça pourrait, c'est très facile de transformer ça.
L'état universel.
Et voilà. Et, donc moi, voilà, j'ai l'impression que le Space Opera, c'est un univers, c'est une promesse, plus qu'un genre en soi.
Ok. Intéressant. Laurent ?
Oh ben, pas mieux, hein. non, mais c'est les... je trouve que ce qui, comme tu dis, en fait, c'est subjectif. C'est comment on perçoit. Moi, tel que je l'ai perçu quand j'en lisais énormément, c'était ailleurs et demain. Bon, l'expression a été prise, mais pour moi, ça résumait très bien ce qu'était le space opéra et ce qu'il est majoritairement ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Il faut qu'il y ait une coupure avec le monde contemporain. Et effectivement, partout sauf sur Terre, on va dire. Ça peut être effectivement, même dans le système solaire et tout. Mais par exemple, j'ai jamais considéré, alors qu'on aurait pu considérer 2001 comme du space opéra. Après tout, ça se passe demain et ça se passe ailleurs. Mais il n'y a pas cette coupure, qui est une sorte de coupure merveilleuse, qui fait que, quelque part, on recommence un récit à partir de zéro. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception. Mais en fait, c'est surtout que c'est un genre qui a une énorme histoire. Il s'est quasiment né avec la science-fiction. Et donc, ça a subi énormément de torsions et de choses comme ça. Et enfin, effectivement, une grande partie du space opéra, c'est de l'aventure, c'est des romans d'aventure. Mais on peut trouver des trucs très intimistes. J'avais fait un bouquin qui s'appelait L'homme qui n'existait plus, qui se passe dans une station spatiale juste au-dessus d'une géante gazeuse une station d'exploitation des nuages d'une géante gazeuse. C'est un pur huis clos avec un seul personnage, pas d'action, un truc étouffant. Et c'est du space op, strictement, c'est du space op. Donc on peut faire quelque chose qui est complètement en dehors des clous. C'est pour ça d'ailleurs que le space op est autant difficile à définir, quasiment aussi difficile à définir que l'ASF, parce que ça a puisé aux genres voisins, ça a puisé un petit peu partout.
D'accord.
Intéressant. Donc, alors, maintenant, on peut parler un peu de vos écrits. Pourquoi, donc, pour les premiers, vous deux qui avez commencé à écrire récemment, en tout cas des romans, pourquoi avoir choisi ce style pour commencer ? Et pourquoi pas une autre forme ? Et Laurent, pourquoi tant et tant de romans sur le même mode ? Alors, on peut peut-être commencer par les petits jeunes.
Donc la raison c'était vraiment le plaisir. Enfin, moi j'en ai lu beaucoup, surtout des la grande période américaine, genre de ça, un peu nourri par ça. Donc envie un peu de dire, quitte à écrire un bouquin dans un genre que j'aime bien, je vais le faire. Un peu aussi par au début il y avait un défi linguistique. Chacun a ses petites manies, et moi j'ai toujours été relativement en bisbille avec les traductions d'auteurs américains et anglais que j'aime, et je me suis toujours dit, on ne peut pas traduire un roman de science-fiction, enfin en généralité idiote, mais quelque part en général c'est très difficile de traduire, l'anglais est une langue très mobile, et c'est assez facile en anglais de créer des néologismes, de construire des vocabulaires un peu différents. En français, on a quand même une grammaire et un poids et même un vocabulaire beaucoup plus restreint. On peut faire des choses, mais justement, ça demande de le concevoir dès le départ et donc de le réécrire ou de l'écrire et non pas de le traduire. Et donc, une des idées, c'était ça. Moi, je lis en général en anglais la plupart de mes bouquins, enfin, quand ils sont d'origine anglaise, bien sûr, pas vicieux pour la traduction anglaise. Et à chaque fois, quand je regarde, de temps en temps, je lis la traduction française parce que ma femme lit en anglais, donc de temps en temps, je vérifie avant de lui commander un bouquin, et puis je fais toujours un peu la grimace quand je vois s'il est fait. Et donc, il y avait l'idée de qu'est-ce que ça représenterait de le faire, de l'écrire dès le début en français, en essayant de retrouver un peu l'esprit. Bon, alors je prétends pas du tout avoir réussi quelque chose, mais il y avait cette idée-là, et de le faire sur un genre qui, pour moi, historiquement, n'avait pas été toujours très bien traité par les traducteurs. J'accorde aux traducteurs que c'est extrêmement difficile. Enfin, des fois, on peut se demander vraiment comment ils y arrivent. Mais comme c'est difficile, ça veut quand même dire que le résultat n'est pas toujours un succès. Et le plaisir qu'on retire du texte original et le plaisir qu'on peut avoir du texte traduit, j'ai un peu l'impression que, mais bon, ça c'est tout à fait, que les gens qui ne lisent que certains auteurs en version française traduite, il leur manque des couleurs. Après, le côté ensuite, après, de faire un livre jeunesse, ça c'est plus par accident. C'était pas vraiment prévu comme ça. Sinon, qu'il y avait des personnages adolescents dedans.
Bon. Et qui peut être plus par un adulte. Hein.
Oui, cette espèce de frontière qu'on découvre maintenant, qu'on appelle le young adult, mais qui à l'époque était à peine mentionné en France. Mais c'est. De toute façon, c'est un peu le principe des romans d'aventure. Vous lisez quelque chose comme même les Trois Mousquetaires ou autres, enfin les grands romans d'aventure. C'est des romans pour les grands adolescents, en classe, c'est vraiment une idée. Oui, exactement.
Ou Einstein.
Par exemple, Einstein, lui, il avait cette idée aussi de faire du jeu, je suppose, de viser clairement à... c'était aussi un point qui pour moi était aussi assez important, l'idée de modestement faire un livre qui puisse être lu par des gens qui n'ont pas lu de SF, se rentrer et qu'on leur demande pas de connaître déjà tous les codes qui existent déjà. Il y a des romans de SF qui sont très bien faits, très intéressants, mais qui quelque part présupposent que le lecteur sache rentrer dedans et le décoder, sinon c'est un petit peu du chinois. Et beaucoup de livres sont comme ça, parce que justement c'est beaucoup plus stimulant pour un auteur, surtout des auteurs de SF qui connaissent énormément tout ce genre-là, ils n'ont pas envie de réécrire ce qui a été fait il y a des années. Donc moi, j'avais un peu l'idée, modestement, de faire quelque chose dans l'esprit de cet âge d'or.
Voilà.
Pourquoi avoir choisi d'écrire ce...
Ah oui, c'est un peu comme ce que tu dis sur le fait d'écrire par accident, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que, j'adore la SF, je mets là-dedans, enfin, c'est un des genres de prédilection, donc c'est pas non plus complètement surprenant, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'idées que je notais régulièrement dans un petit carnet et qui n'étaient pas toutes bonnes. Et dans le tas, il y en a une qui a émergé, c'est celle-là, qui me paraissait plus porteuse que les autres et qui, pour le coup, appliquait forcément la SF. Et, mais à l'origine, c'était même pas prévu pour être du space op, puisque c'est plus le sujet qui a dicté le fait qu'il y ait un voyage spatial. Où mon idée, en fait, moi, c'était de. C'est ça qui m'amusait, enfin, que je trouvais en tout cas il y avait du potentiel, c'était de transposer la première croisade dans un futur assez lointain. Donc d'opposer, de faire une sorte de clash entre l'archaïsme de. Supposé ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément aussi archaïque qu'on ne croit le Haut Moyen-Âge, mais l'archaïsme du Haut Moyen-Âge et des croisades, l'opposé avec le futurisme et l'hypertechnologie qu'on peut imaginer, avec les conséquences que ça peut avoir. Et donc ça impliquait pour ça un voyage vers une planète lointaine, forcément. Et donc ça impliquait un long passage dans un vaisseau spatial. Et comme je voulais pas faire de l'art science, mais je voulais que ce soit quand même vraisemblable, donc le voyage pouvait pas se faire en un éclair. C'était pas du warm ride, c'était pas. À la Star Wars, on appuie sur un bouton et on y est. Non, il fallait quand même que ce soit long. Et donc, mécaniquement, j'ai eu un tome de voyage et un tome sur la planète. Et donc, c'est presque. Le space op, pour moi, c'est une conséquence. Ce n'est pas vraiment un choix, même si j'ai pas couché dessus. Ça me plaît.
Laurent.
Alors, pourquoi le space op parce que. Je suis un enfant de Stéphane Vuhl, de Jack Vance, de ces auteurs-là. Même si j'aime toute la SF, mais c'est vrai que j'ai. C'est vraiment les auteurs qui m'ont fait éclater la tête, peut-être en premier, quand j'étais gamin. Donc, c'était. Y avait ça. Il y a aussi, peut-être aussi, le fait que ça se prête bien à l'aventure, quand même, puisque c'est un peu. C'est un peu ce qui manque sur Terre, c'est le côté terra incognita. Ça restitue un peu les blancs sur les cartes, le space op. Simplement, c'est les cartes spatiales. Parce que sur Terre, il n'y a plus la place. Hein, on a le GPS maintenant. Donc ça permet à nouveau de restituer du mystère au monde. Et donc c'est un champ de... Voilà, c'est une cour de récré pour l'aventure qui est formidable. Ça permet aussi dans mon cas, ça permettait de structurer quelque chose. C'est-à-dire de prendre un champ complètement vide, puis de commencer mes petites constructions comme Sin City. Chaque bouquin, c'était une petite construction. Et puis je commençais à faire des ponts entre les trucs, à tracer des routes, à mettre des citernes et des trucs comme ça. Et tout ça a formé la... espèce de nébuleuse politique économique de cet univers qui compte pas quelques dizaines de bouquins en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi, comme dans SimCity, comme dans les Sims, c'est-à-dire il y a le côté démiurgique qui est un plaisir quand même particulier dans le roman qu'on n'a pas dans la fiction spéculative. Et il y avait aussi le côté solution de facilité. Pour le jeune auteur que j'étais, qui est que pour moi, la fiction spéculative ou l'anticipation, c'est quelque chose de difficile, mais vraiment une gageure. Et imaginer un futur qui n'est pas coupé du monde contemporain, un futur à 10-15 ans qui ne soit pas ridicule au bout de 5, et ben c'est pas du tout évident. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très très difficile. Et il m'aura fallu très longtemps. À plus de 20 ans pour me lancer dans quelque chose qui ne soit pas du space op, parce que je ne me sentais pas les épaules non plus. Alors que commencer, couper les ponts avec justement ce que permet avec notre monde, ce que permet de faire le space op, pour peu qu'on ait des petites dispositions pour créer des bestioles rigolotes, ou des environnements sympas, c'est plus facile. C'était plus facile en ce qui me concerne, en tout cas, que faire de la fiction spéculative. Un truc de feignant. Voilà.
On a compris que l'espèce opéra, c'est une grosse partie, c'est l'aventure, hein, c'est la terra incognita, tout ça. Mais il y a aussi une grosse partie basée sur la science. l'aspect scientifique est souvent très important dans les romans de space opéra. Donc je voulais savoir si vous accordez une place importante dans les vôtres, et comment vous travaillez l'aspect scientifique. Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Qui veut commencer?
Ok, donc effectivement, c'est quand même la moitié du nom du genre. Alors, je pense que chacun a un peu sa méthode. Moi, l'une des choses que je fais finalement le plus autour de ça, c'est je suis abonné à des revues scientifiques. Ça varie un petit peu, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante qui s'appelle New Scientist, qui est en anglaise. On part à peu près c'est hebdomadaire et ça parle ces articles c'est de la vulgarisation un petit peu évoluée quand même, c'est un peu le niveau entre science et vie et la recherche, mais c'est très intéressant parce que c'est très ouvert à tout ce qui est un peu spéculatif, exploratoire. Ça donne la parole à des chercheurs qui sont des vrais chercheurs diplômés et tout, mais qui creusent dans des directions. Et donc là-dedans, on a énormément d'inspiration, d'informations sur des anecdotes du monde de la nature, ou de l'espace, ou de la science. Et puis de temps en temps, on note des trucs, ça pourrait être intéressant. Par exemple, il y a quelques années, on a analysé le spectre d'une planète, et en fait, c'est du carbone à l'état pur, dans des conditions telles que c'est probablement du diamant. Intéressant comme truc, parce que ça doit avoir une certaine gueule quand même quand on regarde. Bon, des trucs comme ça. Pareil, dernièrement, on a vu que sur l'astéroïde Cérès, il y avait une petite plume d'eau liquide. Donc quelque part, il y a une sorte de lac souterrain d'eau sous la surface de Cérès. C'est également le cas d'autres satellites de nos... Donc, là, c'est
tout près. Ou les trous noirs à surface fractale, c'est sympa ça.
Alors, de toute façon, on va trouver. Alors, quelquefois, c'est des choses, on dit, bon, c'est intéressant, ça pourrait faire un peu de couleur locale. Est-ce que je ferai une histoire autour de ça? Bon, c'est pas évident, mais on accumule un petit peu. Et de temps en temps, alors, c'est vrai que c'est pas mal dans une histoire de science-fiction si on arrive, des auteurs qui ont fait ça, si quelque part la base de l'histoire, c'est une rigueur scientifique. En général, ça ne fait pas des histoires très marrantes si on dirait qu'elle est trop scientifique. Donc au bout d'un moment, il faut couper. Mais c'est plus une question d'aller à la chasse aux papillons, de collecter les machins, et puis il y en a qui sont intéressantes. Mais en général, jusqu'à présent, j'ai écrit deux romans, il y en a un qui va sortir, j'espère. Dedans, il y a des éléments qui sont vraiment scientifiques dans le sens où je pense que c'est sérieux et je l'argumente un petit peu, mais j'en mets pas trop parce que ça peut être assez chiant. Et puis, surtout, c'est difficile d'en faire le cœur de l'histoire. Il y a un petit peu de ça dans les pousse-pierres, il y a une sorte de vague intuition qui est à la base d'une partie de l'intrigue, mais c'est appeler ça de la science, c'est un petit peu léger.
Ok.
Ce qui est important, à mon avis, alors ça dépend, ça dépend ce qu'on cherche dans la SF. Si on aime vraiment l'aspect scientifique des choses, si on est fan de vulgarisation scientifique, etc., il y a ce qu'on appelle la hard science, qui est une branche de la science-fiction qui est supposée être très rigoureuse, très précise, qui ne parle pas forcément de choses qui existent, évidemment, mais de choses qui sont possibles, sur lesquelles il y a des théories éprouvées, etc. Qui peut d'ailleurs donner des bouquins assez marrants, où, comme tu disais très bien, souvent ça part d'une idée, d'un concept scientifique. Un exemple très célèbre, par exemple, c'est La guerre éternelle de Joel Lehman, qui décrit une guerre un peu plus classique entre les extraterrestres et les humains, qui se passe, pour le coup, vraiment space-up, hein, dans l'espace, pas sur une planète. Et lui, comme il applique à la lettre le principe de la relativité, voilà, du coup, comme les vaisseaux humains se déplacent à des vitesses quasi luminiques, le temps s'écoule pour eux extrêmement plus lentement que pour les humains qui restent sur Terre, et donc ils accumulent un décalage temporel qui est gigantesque, et comme ce sont des militaires, ils continuent à accumuler leur solde pendant ce temps-là. Et donc, ça se trouve, alors que c'est des soldats, c'est des troufions, mais ils se retrouvent à la tête de fortunes colossales, parce que pendant qu'ils font leur saut luminique, ils continuent à être payés sur Terre. Donc ça, moi je trouve que c'est marrant parce que c'est des idées un peu inattendues, un peu saugrenues, et qui donnent des histoires qui sont parfois intéressantes. En l'occurrence, moi, c'est pas du tout dans ce genre-là que je suis parti. Moi, je suis parti dans l'autre branche de l'ASF, qui est il faut que ce soit vraisemblable. Donc, il faut que ça sonne, c'est du Canada Dry, il faut que ça sonne comme du vrai, mais après, ça peut être complètement délirant. Moi, il y a des trucs que j'ai inventés de toutes pièces, qui sont complètement débiles scientifiquement, mais où on essaie de trouver une musique démo qui fait que c'est vraisemblable. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects que j'ai utilisés où, pour le coup, je me suis renseigné, je me suis documenté, et ce qu'on sait déjà faire ou ce qu'on anticipe qui sera possible un jour était suffisant pour moi pour l'intégrer tel quel dans l'histoire. Et, par exemple, j'ai toute une partie dans une sorte de cyberspace à la Gibson, donc très à la Matrix, ça rend peut-être plus aux gens, où là, bon, bah, c'est quelque chose qui existe pratiquement. On est vraiment aux portes d'avoir ça. Et donc, je pense que voilà, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre réel, extrapolé, délire vraisemblable et artisanat pur.
D'accord. Alors, oui, la science dans le Space Op, ça peut être le but ou le moyen, en fait. On peut avoir une intrigue réellement scientifique, comme chez Larry Niven, dans des auteurs de Art Science, mais qui font du space opéra, qui font des trucs qui se passent dans un... Voilà, ou Forward, ou des auteurs comme ça, ou Baxter, qui fait des intrigues réellement autour de la science, où il y a un enjeu, où il y a un jeu logique autour de la science. Mais il faut reconnaître que la plupart des space opéras ne sont pas du tout scientifiques. Même quand on en met... c'est pas forcément l'enjeu. Ça peut être le moyen, d'immerger le lecteur dans sa fiction. Moi, c'est mon cas. Moi mes fictions, dans mes fictions, dans ma SF, je suis pas un auteur de hard science. Pour moi, c'est parce que l'aspect scientifique, enfin le côté vraisemblable, il est réellement au service de l'immersion. Donc c'est plutôt une sorte de pacte, c'est le niveau esthétique, c'est une sorte de...
Mais c'est une musique des mots.
C'est une musique des mots, c'est une
fois... la surface fractale, c'est tout de suite... On sait pas ce que c'est, mais ça sonne bien.
Oui, ça sonne bien, mais c'est parce que ça ne sonne bien que quand ça fait... ça ne fait bien que quand c'est vraisemblable dans la fiction. Et c'est là où, justement, les fictions se tiennent ou pas. C'est que voilà, il faut que ça fasse monde, sinon ça fonctionne pas. Mais même les scientifiques, pour moi, la science, c'est plutôt ce que je dis souvent, hein, c'est plutôt un tremplin. Et Larry Niven, par exemple, quand il imagine son univers de l'anomonde, mais qui est plus général, je me rappelle plus le
known space.
Voilà, de l'espace connu, où il imagine le cœur de la galaxie qui est en explosion, où les soleils explosent. Les soleils du centre galactique sont en train d'exploser, en fait. Et donc, il y a une espèce de fuite de toutes les civilisations qui s'intéressent vers la bordure. Il prend l'image du centre galactique comme du cœur d'une centrale nucléaire, avec les atomes qui sont en train de fissionner. Mais en fait, ça c'est une analogie qui n'a pas de sens. C'est pas du tout les mêmes processus à l'œuvre. Dans un cas, il y a la gravité, là, il y a la gravitation. Dans un autre, c'est la force forte. Donc ça n'a aucun rapport. Et je pense qu'il le savait parfaitement, mais c'est tellement porteur d'une image forte, c'est-à-dire cette galaxie en explosion, qu'on s'en fiche, même si la prémisse est fausse. L'important, c'est le cheminement logique, quoi. Enfin, c'est la pelote qui se dévie, la pelote logique qui, elle, est jouissive à suivre. Voilà. On est vraiment le chat derrière cette pelote mentale qui se dévie devant nous. Et c'est un jeu... C'est super ludique, la SF.
Donc, on pourrait enchaîner sur une autre partie du space opéra, c'est de tout ce qui est politique. L'aspect politique est souvent très présent dans des intrigues, notamment dans Dominium complètement, parce que là, on est au cœur d'histoire. Je crois que c'est dans les peaux épaisses aussi, où il y a pas mal de... On peut parler un peu de systèmes... complexe, mais de relations, en tout cas sociales, compliquées.
Alors le monde des peaux épaisses, comme du reste, hein, c'est un monde qui est dominé par l'économie. En fait, moi j'ai commencé le cycle à la fin des années 80, et on était en pleines années ultra-libérales, même si le mot n'existait pas en fait. On disait libéral tout court, mais on était déjà dans un monde qui est celui hérité du cyberpunk aussi, c'est-à-dire cette espèce d'utopie, entre guillemets, post-État, mais où les grandes corporations font la loi. J'ai transposé ça dans le space opéra avec mes multimondiales. Voilà, quoi, c'est simplement... C'est vrai que le space opéra, surtout celui qui s'écarte de la hard science, il est très métaphorique. Il est vraiment l'image du monde qu'on veut donner, de notre monde qu'on veut, tel qu'on le perçoit, ou tel qu'on l'imagine, ou tel qu'on le projette dans un futur proche. Donc moi, c'était un monde dominé par l'économie. Donc, j'ai eu cette perception-là dès le départ. Et aussi le fait que les mondes... J'étais aussi... c'était une période où on voyait vraiment avec une grande acuité le fait que le monde était fini. Ça a été vraiment la période où on se rendait compte que, après tout, ça faisait seulement 20 ans que la Terre avait été photographiée de l'espace. Et donc, on voyait la Terre finie, quoi, réellement prise dans un seul cliché. Et ce côté Terre vaisseau spatial, mais avec ce côté fini... on est aussi héritier de ça, quoi. Et le space opéra, c'est aussi le peut-être celui d'aujourd'hui, c'est peut-être la volonté, peut-être une volonté, enfin peut-être un réflexe régressif aussi, de retrouver l'innocence où on pouvait piller les ressources comme on voulait, sans se préoccuper de
des conséquences.
Ouais. Sans qu'il y ait forcément de discours d'ailleurs. Ouais. Derrière, c'est au-delà d'un discours, c'est une simple perception de la réalité.
Parce que dans Dominium, je me suis demandé pourquoi tu... Parce que c'est un roman éminemment politique.
Ouais.
Mais tu aurais pu faire autre chose, un thriller
J'aurais pu.
Je suis pas donné. Pourquoi avoir choisi de t'exprimer avec...
Parce que, je sais pas, c'était naturel. Les luttes de pouvoir, les rapports de pouvoir dans la société humaine, c'est au cœur de tout. Donc ça, moi j'ai l'impression que c'est difficile d'écrire une histoire, évidemment c'est possible, mais c'est difficile d'écrire une histoire, en tout cas à laquelle on a envie de donner beaucoup d'ampleur, qui se passe sur une longue période de temps, qui implique beaucoup de personnes, qui implique qui a des enjeux à l'échelle du peuple entier. C'est inévitable, on est obligé de parler de politique. Donc après moi de toute façon, comme mon idée initiale c'était de transposer les croisades dans un futur, forcément une croisade... À la base, on a un prétexte spirituel, mais forcément, le prétexte spirituel, c'est quelques pourcents de la raison profonde, et ce sont des raisons politiques, des enjeux économiques et de pouvoir qui ont provoqué ce choc entre les civilisations. Et donc, du coup, à partir du moment où moi je décide de transposer les croisades, je suis obligé de décrire un contexte politique touffu, global. D'avoir des intrigues, c'est inévitable, c'est le corollaire.
Arnaud, un mot là-dessus. Dans les pousse-pierres, c'est peut-être plus...
Il y a une dimension politique, en fait elle était beaucoup plus présente dans la première version du roman, où j'ai coupé les choses. La suite reprendra un peu de ça, mais à la base il y a cette idée aussi de contraintes économiques, en l'occurrence dans l'histoire des pousse-pierres, on a sur Terre un pouvoir économique, une corporation, des choses comme ça, qui est maintenu sur la planète alors que l'humanité, une autre partie, s'exprime dans le reste du système solaire. Et les deuxièmes interdisent aux premiers de sortir. Et en gros, ça fait le conflit, c'est la cause du conflit principal. Et la raison est quelque part un petit peu politique aussi. On n'est pas d'accord et on a le moyen de vous empêcher. Donc, de toute façon, je pense que quand on est dans une logique de space opéra un petit peu étendue, on est avec des sociétés. Donc, c'est pas des individus. On peut faire une sorte de space opéra qui est un peu l'histoire de quelques individus qui se promènent dans la galaxie. Mais très vite, on va s'apercevoir qu'on va vouloir mettre des sociétés, des planètes habitées par différentes peuples, races même, ou éventuellement tout ça même. Et donc on va trouver de la politique, parce que forcément tous les groupes d'humains, ils s'organisent de cette manière-là. Donc, alors par contre, en général, c'est difficile d'être très imaginatif en politique sur ce qui peut se passer. On a plutôt tendance à prendre des choses soit de la période courante, soit qu'on a peur, enfin du passé, mais qu'on a peur qu'ils reviennent, et puis de les projeter dans le futur pour... mais on fait un peu de la combinatoire de choses qu'on connaît. Il y a des cas où des systèmes... Enfin, on peut toujours essayer d'inventer des systèmes politiques complètement différents, c'est pas évident. C'est un peu amusant.
Ok. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc on a fait la science, on a fait la politique, et là maintenant, si on parlait de nos amis extraterrestres, souvent donc les romans de space opéra sont des lieux de rencontres privilégiés pour des rencontres avec des ET. Donc moi, je voulais savoir un peu comment vous l'envisagez dans vos romans. Alors je crois que tout le monde peut en parler. Oui. Dans les pouces.
Je pourrais en parler. Mais sur les autres, tu peux les
traiter. Ça va être compliqué. Donc comment vous, dans vos romans, vous l'envisagez, et comment vous l'envisagez dans notre réalité à nous? Est-ce que vous imaginez comment vous pourrez le concevoir pour nous terriens? Voilà, et notamment Laurent avec Point Chaud qui a fait un.
Ah oui, alors il y a Point Chaud, il y a Omal. C'est les deux, oui. C'est les deux pôles c'est les deux pôles de traitement de l'extraterrestre. Parce que dans Point Chaud, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les réactions humaines face à l'altérité. Mais les extraterrestres que je présente, je les décris quasiment pas. Ils sont pas réellement traités. Ils sont traités hors de leur. Ils sont pas traités. Ils sont présentés même hors de leur milieu. C'est des visiteurs. Donc voilà, c'est plutôt des témoins et des déclencheurs plutôt que traités en eux-mêmes. Voilà. Et c'est des niveaux, j'allais dire, ils représentent une altérité quand je décris les Eti, qui sont des sortes d'aliens polaires qui errent dans la toundra du Grand Nord russe en Sibérie. C'est presque une vision impressionniste que j'ai, c'est-à-dire que c'est une fourrure qui ressemble à du lait, comme des sortes de tentacules de lait, voilà, des choses comme ça. On est du ressort du tactile, de la, mais en fait on n'en sait pas grand-chose. Sur Omal, alors là c'est vraiment le point de vue inverse, où là les extraterrestres étaient intéressants en eux-mêmes, même en dehors de, les humains ne pourraient pas exister dans le monde d'Omal. Le cycle, lui, pourrait. C'est ça qui était... Moi, c'était mon point de départ. C'était de relativiser tellement l'être humain qu'il peut devenir optionnel, finalement, dans le cycle. Et dans le projet initial que j'avais soumis à Marion Mazurik à l'époque, qui dirigeait la collection Millénaire chez J'ai lu, c'était... Je voulais, dans le premier volume, je voulais pas d'humain. Et elle m'a dit, oh là là là, mais le pauvre lecteur, pense au pauvre lecteur. Donc j'ai mis des humains, parce que je suis un auteur accommodant quand même. Mais à la base, il devait même pas y en avoir. Et ce qui est intéressant, moi ce qui m'a intéressé, c'est le développement. C'est-à-dire que c'est quelles hypothèses sur un extraterrestre qui a qui sont trisexués par exemple. Qu'est-ce que ça va induire comme... qu'est-ce qu'ils vont produire comme mythologie? Qu'est-ce qu'on produit comme mythologie, comme psychologie intime quand on est trisexué, par exemple? Voilà, ou quand on a... Voilà, tu veux peut-être pas savoir, mais justement parce que qui est justement pas forcément des corollaires purement sexuels, justement. Qu'est-ce que ça va induire comme comportements sociaux, et puis qu'est-ce qu'ils pensent de l'origine du monde, comment le monde a été créé, etc., etc. C'est ça qui est... Et donc toutes ces couches de réalité, j'ai essayé de reconstituer un peu toutes les couches de réalité liées aux spécificités de chacun de mes aliens, c'est-à-dire voilà, quelle est leur mythologie, quel est leur système familial s'ils en ont un, quel est leur comment il fonctionne au niveau du droit, de toutes les couches de réalité. En dehors, en plus de l'aspect purement physiologique, anatomique, etc.
Et sur la réalité des extraterrestres aujourd'hui, tu as un avis là-dessus ?